On va partager ensemble ce que Dieu a mis sur mon cœur de partager avec vous. Dans toutes les maisons, dans un cadre, sous un sous-vert, dans une boîte, dans un album, sur un smartphone maintenant, sur un ordinateur, nous avons tous et toutes des photos de famille. Une photo de famille. Et nous aimons à regarder ces photos de famille. Tiens, j'ai vieilli. Tiens, il a grossi un peu. Tiens, il ou elle n'est plus là. Une photo de famille. Alors la définition de la famille, la définition originale de la famille, c'est l'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit. Après, il y a la famille élargie, hein, les cousins, les cousines, les grands-parents, etc., etc. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde une famille exceptionnelle. On va se focaliser sur la famille dite nucléaire. Un père, une mère et des enfants, des frères et des sœurs. Dans une famille, il y a un aîné et puis il y a un dernier. Est-ce qu'il y a des aînés dans cette salle? Je sais qu'il y en a. Les aînés, levez la main. Les aînés, ah oui, il y en a. Hein. Il y en a des aînés. Ah, il y en a plusieurs des aînés. Hein. Eh bien, ce matin, on va voir une famille où, exceptionnelle, je l'ai dit, unique, et où il y a un aîné. Il y a un aîné dans cette famille, un premier-né. Mais en même temps qu'il est l'aîné, qu'il a des frères, qu'il a des sœurs, il est aussi fils unique. En même temps qu'il a des frères et des sœurs, quelques-uns, il en a aussi une multitude. Voyez-vous de qui nous allons parler, de quelle famille nous allons regarder la photographie ce matin. Oui, je l'ai entendu. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus et de sa famille. Alors, c'est un texte que nous avons déjà abordé avec les Vénois, mardi soir, et nous allons le revoir ce matin d'une manière différente. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 12, verset 46. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit : ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait : qui est ma mère et qui sont mes frères ? Puis il tendit la main vers ses disciples et dit : voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Amen. Une famille exceptionnelle et aussi classique. Jésus avait une mère, nous le savons. Elle s'appelait Marie, mais aussi des frères qui sont nés après lui, avec Joseph pour père. Alors c'est une famille particulière parce que nous savons que Joseph n'était pas le père de Jésus. Nous savons que Jésus a été engendré par le Saint-Esprit, qu'il est le fils unique de Dieu, Dieu lui-même. Dieu fait homme. Le Fils de Dieu, frères et sœurs, devenait un homme, un être humain, en naissant d'une femme. Mais conçu par le Saint-Esprit, il n'hérite pas de la nature pécheresse d'Adam. Et vivant une vie parfaite, sans péché, il reste exempt de péché jusqu'à sa mort. un exemple parfait. Jésus, l'aîné de cette famille, à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Dieu pour père, une femme pour mère. Alors les frères de Jésus sont mentionnés dans le texte que nous avons lu, ainsi que dans les autres évangiles, Luc et Marc. La Bible nous apprend que Jésus avait 4 frères. Alors j'ai posé la même question aux Vénois mardi soir et ils en ont trouvé quelques-uns. Pouvez-vous me donner les noms des frères de Jésus ? Jacques, Jose ou Joseph, Simon et Jude. Et Jude, oui. Les 4 frères de Jésus. Et oui, Marie-France, elle nous parle aussi de ses sœurs. Alors, on n'en connaît pas le nom, on n'en connaît pas le nombre. On peut affirmer sans se tromper qu'elles étaient au moins 2, puisqu'il est question de ses sœurs. Jésus avait 4 frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude, et au moins 2 sœurs. N'est-il pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui vient donc tout cela ? Matthieu chapitre 13, versets 55 et 56. La Bible nous révèle que les frères de Jésus ont longtemps refusé de croire en lui. Celui avec qui ils s'étaient disputés enfant, celui avec qui ils avaient joué aux billes ou je ne sais pas quels étaient les jeux de l'époque, jouer à cache-cache dans les rues. Il ne croyait pas en lui. Il n'arrivait pas à concevoir qu'il puisse être autre chose que leur frère, que leur grand frère. C'était inconcevable pour eux. En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Jean chapitre 7, verset 5. Mais la Bible nous révèle que plus tard, ils sont cités en compagnie des disciples. Ils ont changé d'avis, changé d'attitude à son sujet, tous persévérés d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On trouve ce texte dans les Actes des Apôtres au chapitre 1 et au verset 14. Ils ont changé d'avis. Peut-être après l'avoir vu mourir, peut-être après l'avoir vu ressusciter, parce qu'il est apparu à Jacques, ensuite à tous les apôtres, 1 Corinthiens 15, 7. Alors nous connaissons quand même 2 des frères de Jésus. Nous connaissons Jacques, qui nous a laissé la lettre éponyme dans le Nouveau Testament, et puis nous connaissons Jude aussi, cette courte épître, avant l'Apocalypse. Jésus avait effectivement des frères et sœurs de sang, la même mère. Alors, on peut peut-être parler de demi-frères et de demi-sœurs, mais c'est le terme de frères et sœurs qui est employé dans le texte biblique. Il ne s'agit pas de cousins, il ne s'agit pas d'enfants d'un premier mariage de Joseph. Ils sont bien avec leur mère. Ils sont bien avec leur mère Marie. Ils se déplacent avec elle. Ils restent avec elle. Ce sont bien les enfants de Marie. Ce sont bien les frères de Jésus. Marie a eu des enfants avec Joseph. Elle n'est restée vierge que jusqu'à ce que Jésus naissent. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce que elle est mise au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Marie n'est restée vierge que jusqu'à la naissance de Jésus. Et Jésus avait des frères et des sœurs. C'est l'enseignement clair et sans ambiguïté de la Bible. Alors on va aller plus loin dans cette photo familiale. Parce qu'elle est beaucoup plus vaste que cela, la famille de Jésus. Voici que le reste du texte que nous avons lu met en évidence qu'il existe une autre sorte de frère et de mère de Jésus. Puis il tendit la main vers ses disciples et dit : Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Luc rapporte, lui, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Frères et sœurs, sommes-nous les frères de Jésus? Oui. Amen. J'espère. Je l'espère. Sommes-nous les frères de Jésus? Qu'est-ce que cela implique? Quelle implication cela a-t-il? On va faire une deuxième lecture dans l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 8, verset 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». Père, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Amen. Esprit d'esclavage, esprit d'adoption. Dieu nous a adoptés. On l'a chanté ce matin. Je suis enfant de Dieu. Nous n'avons plus à être dans la crainte comme celui qui est esclave. L'apôtre Paul utilise cette image de l'esclave et de l'enfant adopté pour nous faire comprendre, nous faire saisir quelle est la relation du croyant avec Dieu. Quelle est la relation de l'enfant que nous sommes, de la fille que tu es avec Dieu qui est devenu ton Père céleste. Dans la société romaine, l'enfant qui était adopté, il perdait tous les droits qu'il avait dans son ancienne famille. Et il recevait, il gagnait tous ceux d'un enfant légitime dans sa nouvelle famille. Regrettez-vous d'avoir changé de famille? C'est incomparable ce que nous avons laissé et ce que nous avons gagné. il devenait héritier des biens de son nouveau père. Nous pouvons crier « Abba ». Est-ce que nous avons conscience de la grâce qui nous est faite de pouvoir appeler le Dieu créateur du ciel et de la terre, Papa, Papa Yahweh, Père, Père, quelle grâce, nous sommes héritiers de Dieu. Le Saint-Esprit en rend témoignage à notre esprit. Qu'est-ce que nous avons laissé ? Nous avons laissé une vie d'esclavage, une vie de péché, une vie de souffrance, de perdition. Qu'est-ce que nous avons gagné ? Le pardon des péchés. Qu'est-ce que nous avons gagné ? La vie éternelle. La vie éternelle. La réconciliation avec Dieu notre Père. Le rétablissement de la communion avec lui. Seigneur, merci d'avoir fait de moi ton enfant. Seigneur, merci de m'avoir adopté. La vie éternelle et bientôt le corps glorifié. Ah, quelle perspective joyeuse, quelle perspective incroyable. Et dans cette perspective, on ne peut que crier « Amen, Alléluia ». Vous le dites avec moi ?« Amen, Alléluia ». Mais qui n'est pas satisfait de son état d'homme libre en Christ, de l'héritage qu'il a reçu ? Nous aimons cet aspect, mais il y en a un deuxième. Il ne vous a pas échappé, certainement, puisque nous l'avons lu ensemble. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Est-ce que vous dites amen à cela quand même ? Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui. Vivre comme Jésus a vécu. Renoncer à ses droits. Une vie d'humilité. Ne pas se conformer au monde. Une vie de serviteur. La vie de quelqu'un qui fait la volonté de son Père. La vie de quelqu'un qui obéit à son Père. La vie de quelqu'un dont sa propre volonté se confond avec celle du Père. C'est la même volonté. Une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance. C'est quelque chose d'indissociable. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. J'ai relevé ce texte que je partage avec vous, Philippiens chapitre 2, verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. L'obéissance avant la gloire. L'abaissement avant l'élévation. Rappelez-vous, frères et sœurs, le pardon des péchés, le rapprochement avec Dieu, il est impossible sans la repentance, sans la conviction de péché, sans cette mise à genoux devant Dieu, devant sa sainteté, devant sa perfection, sans cette demande de pardon sincère. Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur, pardonne-moi, je n'ai pas fait cas de ta personne. Seigneur, pardonne-moi, je t'ai blessé, je t'ai peiné, j'ai enfreint ta parole, j'ai enfreint ta volonté. Mes amis, mes frères et mes sœurs, être fille, être fils, sans le dépouillement de soi, sans l'obéissance, sans l'humilité, sans la consécration, sans faire passer son Père avant soi-même, c'est impossible. C'est impossible. C'est inhérent à notre condition d'enfant de Dieu. C'est inhérent à notre condition de fils et de fille. Voici ma mère et mes frères. En effet, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Être un enfant de Dieu, c'est un privilège inexprimable. Nous avons du mal à en saisir toutes les conséquences, tout ce que cela implique. C'est un privilège incroyable. Mais nous ne pouvons pas avoir les privilèges du fils, avoir les privilèges de la fille et en refuser les responsabilités. C'est absolument impossible. Si je suis fils, si je suis fille, alors je dois en accepter les responsabilités. Un fils obéit à son père. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Un fils obéit à son père, à sa mère. Un fils obéit à son père. Dieu nous offre une relation familiale avec lui. Dieu nous offre une relation filiale, une relation de communion, une relation d'amour. Voilà qui est la véritable famille de Jésus, plus que sa mère, plus que ses frères de sang. Ce sont ceux qui entendent ses paroles et qui y obéissent. Voilà ceux qui sont la mère de Jésus. Voilà ceux qui sont les frères de Jésus. Écouter sans obéir ne sert à rien. Nous sommes l'objet d'un amour infini. Tu es l'objet d'un amour infini. J'ai eu à cœur, et ça m'a fait venir les larmes aux yeux vraiment, lorsque Dieu m'a montré cela. Jésus est crucifié Jésus est en train de mourir sur la croix. Où est sa mère? Où est sa mère? Elle est au pied de la croix. Elle est au pied de la croix. Jésus est en train de supporter l'insupportable. Il est en train de souffrir, d'agoniser. Et il y a sa mère au pied de la croix. Il y a sa maman, celle qu'il a vue naître. Celle qui s'occupait de lui quand il était malade, quand il ne dormait pas bien. Celle qui l'a changé, celle qui l'a allaité. Elle est là. Et elle voit ce fils qu'elle a mis au monde, qu'elle a aimé, qu'elle aime toujours. Et il est en train de mourir pour les péchés de l'humanité. Il est en train de mourir pour moi. Il est en train de mourir pour toi. Mais quel amour incroyable! Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jésus qui voit sa mère? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de sa mère qui voit Jésus, qui voit son fils en train de mourir? Est-ce qu'elle se révolte contre Dieu? Est-ce qu'elle dit, mais c'est pas possible, comment tu peux permettre une chose pareille? Et que pense Jésus? Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Dans l'état de souffrance dans lequel il est, dans ce combat, il doit rester sur la croix. Jésus pense à sa mère. Il pense à elle. C'est lui le fils aîné. Il doit s'occuper de sa mère. Où sont les autres frères et sœurs à ce moment-là? Nous l'ignorons. Où est Joseph? Il n'en est plus fait question. Certainement, il est mort. Et certainement, Marie est veuve à ce moment de la croix. Quel amour de Jésus pour sa mère. Il la confie à Jean. Il lui donne un nouveau fils, quelqu'un qui va s'occuper d'elle et qui va vraisemblablement l'emmener sur l'instant, après qu'il les ait confiés l'un à l'autre, qui va l'emmener sur l'instant pour épargner à Marie ce spectacle insupportable qui est devant ses yeux. Oh, certainement, si on avait demandé à Marie, qu'est-ce que tu veux pour ton fils? Ben, elle aurait dit, qu'il descende de la croix. Que cela lui soit épargné. Que cela me soit épargné. C'est insupportable. Ce qu'on sait des sentiments de Marie, c'est la prophétie de Siméon qui nous l'apprend. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Pas de révolte, pas d'incompréhension, mais une épée qui lui transperce l'âme. Comme cette image est parlante, une épée qui lui transperce l'âme. Son fils est en train de mourir. Quelle épreuve pour une mère. Et pourtant, elle est là. Elle est là. Elle ne fuit pas sa responsabilité de mère. Elle n'est pas allée se cacher pour que ce spectacle lui soit épargné jusqu'au bout. Elle est avec son fils. Si elle pouvait, certainement, elle le ferait descendre de la croix. Alors on peut se poser cette question, mais Jésus aime-t-il sa mère? Comment peut-il lui faire subir un tel spectacle? Pourquoi ne descend-il pas de la croix pour épargner à sa mère cette douleur, cette épée qui lui transperce l'âme? Pourquoi ne descend-il pas de la croix? Il en a le pouvoir. Ainsi, il l'ôterait à sa mère cette épreuve. N'aime-t-il donc pas sa mère? Mais s'il soulage sa mère de cette douleur, il ne va pas mourir. Et pour la soulager, pour lui éviter une souffrance insupportable, mais temporaire, il la condamne pour l'éternité. Parce que Marie est une femme et qu'elle a besoin de ce qui est en train de se passer. Elle a besoin que Jésus meure sur la croix pour épargner cela à sa mère, mais Jésus priverait l'humanité entière du salut qu'il y a en lui. Non, Jésus aime sa mère. C'est pour ça qu'il meurt. C'est pour ça qu'il meurt. Parce qu'il aime sa mère. Il va jusqu'au bout. Mais il est aussi plein de prévenance. Et pour le temps qu'il lui reste à sa mère à passer sur cette terre, il l'a confié à Jean. Comme ça, il sait que elle ne sera pas seule. Comme ça, il sait que quelqu'un s'occupera d'elle. Jusque dans les moindres détails. Dieu t'aime. Tu ne peux pas dire que Dieu ne t'aime pas. Tu ne peux pas dire qu'il ne s'occupe pas de toi. Que s'il te laisse dans cette situation, c'est parce qu'il ne t'aime pas. C'est parce qu'il ne sait pas ce que tu vis. Tu ne peux pas dire cela parce que c'est faux. Parce que c'est faux. Dieu, Jésus a laissé sa mère dans cette situation parce que c'était le meilleur. Parce que c'était le meilleur, pas parce qu'il ne l'aimait pas. Jésus savait très bien ce qu'il y avait dans le cœur de sa mère. Une épée est en train de lui transpercer l'âme. Alors la situation n'a pas été changée. Mais quand même, il l'a abrégée. Femme, voici ton fils. Et Jean va l'emmener. Jean va l'emmener, ça y est, ça suffit, elle en a assez vu, ça y est, ça suffit, elle en a assez supporté. Quel amour, quelle attention particulière. J'ai relevé un texte, il est un peu long, mais ce n'est pas grave, je vais le lire quand même. C'est dans la parole vivante, Romains chapitre 8, verset 28. Vous pouvez le suivre sur votre Bible, hein, c'est la même chose, c'est dit différemment, c'est tout. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. En effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants, au même titre que son propre fils, et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'ils soient l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Amen. Ceux à qui Dieu a réservé d'avance une telle destinée les a aussi appelés à venir à lui. Ceux auxquels il a adressé son appel ont aussi été déclarés justes. Et ceux qu'il a fait accéder à cette justice et à cette vie nouvelle ont été revêtus de la beauté, de la sainteté. Dieu leur a accordé leur part de la gloire céleste. Frères et sœurs, mes amis, le but ultime de Dieu, c'est de nous rendre semblables à Christ. Le Fils est né d'un grand nombre de frères. Le Fils est né. Nous devons être rendu semblable à Jésus-Christ. Dieu ne sauve pas l'homme contre sa volonté. Il veut son acceptation. Il veut son amour. Dieu ne force pas l'homme à avoir une relation avec lui, à être en communion avec lui. Il ne veut pas une relation d'obligation. Il veut une relation d'amour, une relation de père à fils, une relation de mère à fils. Voilà ce que Dieu veut. Mon frère, ma sœur, Dieu ne te conduira pas à la ressemblance de son Fils, à la ressemblance de Jésus contre ta volonté. Il veut ton obéissance, il veut ton amour. Il ne veut pas une obéissance contrainte. Il ne veut pas t'enchaîner. Non, il veut que tu l'aimes. Il veut que tu l'aimes et que tu manifestes ton amour par la soumission, par l'obéissance, par la recherche de sa volonté et par ton obéissance à sa volonté. Pourquoi tu es là ce matin? Est-ce que c'est par contrainte ou est-ce que c'est par amour? Pourquoi est-ce que tu prends soin de ton épouse? Pourquoi est-ce que tu es fidèle à ton mari? Pourquoi est-ce que tu t'occupes de tes enfants? Pourquoi est-ce que tu veilles à ce qu'ils soient logés, nourris? Pourquoi est-ce que tu vas leur faire un bisou le soir? Parce que tu es obligé ou parce que tu les aimes? Dieu veut que tu l'aimes. Dieu veut que tu l'aimes. Son joug est doux et son fardeau léger. Il veut une relation filiale avec toi, maternelle avec toi. Il veut que tu l'aimes. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes instructions et s'applique à les observer. Mon Père aime celui qui m'aime. Et moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je lui révélerai qui je suis. Celui qui m'aime vraiment. Celui qui m'aime vraiment. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Dieu t'aime. Oh, nous n'arriverons jamais à l'aimer autant qu'il nous aime. C'est pas possible. C'est hors de notre portée. Mais nous devons l'aimer plus que nous nous aimons nous-mêmes. Ça c'est quelque chose d'indispensable. Je dois l'aimer plus que ce que je m'aime moi-même. Dieu attend que tu l'aimes. C'est tout ce qu'il te demande. L'amour ne meurt jamais. L'amour ne meurt jamais. Il fait partie des trois choses qui demeurent, avec la foi et l'espérance. Mais le plus grand des trois, c'est l'amour. L'espérance, un jour, ça va arriver. Jésus va revenir nous chercher. Un jour, nous vivrons pour l'éternité avec lui. Il n'y aura plus besoin d'avoir d'espérance. Un jour, nos yeux vont le voir. Il n'y aura plus besoin d'avoir de foi. Mais cette relation paternelle, maternelle, elle va durer pour l'éternité. L'amour ne cessera jamais. Dieu veut que tu l'aimes. Dieu veut que tu l'aimes. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. J'aimerais qu'on s'incline, qu'on ferme les yeux. Est-ce que quelqu'un, ce matin, veut faire des progrès dans son amour pour son Seigneur? Est-ce que ce matin, quelqu'un veut aimer Dieu plus, veut aimer Dieu mieux, pour faire sa volonté, pour lui obéir? Je vous invite à vous lever à votre place. Vous qui voulez aimer Dieu mieux, vous qui voulez aimer Dieu plus, levez-vous à votre place. Oh, je suis déjà debout. Je vous assure que si j'étais assis, je me lèverais. Seigneur, tu vois tous ceux qui sont debout devant toi ce matin. Tu vois ton peuple debout devant toi ce matin. Tu vois tes fils, tu vois tes filles, tu vois tes mères. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as faite de faire de nous tes héritiers. Seigneur, merci de nous avoir adoptés, d'avoir fait de nous tes enfants, avec tout ce que cela implique comme bénédiction éternelle. Seigneur, aide-nous, apprends-nous, donne-nous de t'aimer plus, de t'aimer mieux, afin que nous nous rapprochions de ce que tu attends de nous, de Jésus-Christ, de ton Fils unique et parfait. Seigneur, tu vois notre cœur ce matin et notre désir de t'aimer plus et de t'aimer mieux. Toi, tu vois tous ceux qui sont debout et je te prie dans le nom de Jésus maintenant de nous permettre de faire des progrès dans ce domaine. Et voilà, que tous ceux qui sont debout disent « Amen » avec moi. Amen. Que Dieu vous bénisse.